19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Et oui, bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Aujourd'hui, jeudi 12 décembre 2019, toujours en live jusqu'à 20h, votre quotidienne sportive, Time Sport avec toute l'équipe. Aujourd'hui, on parlera dans cette émission de la FIFA. Et oui, qui se la joue au requin et qui réclame de l'argent à Sepp Blatter et Michel Platini. Dans cette émission aussi, on reviendra sur cette fameuse soirée Ligue des Champions avec le Bayern de Munich Tottenham. Sans oublier hier, le match, la Manita, on peut l'appeler comme ça, du Paris Saint-Germain face à Istanbul de Galatasaray. Mais aussi de l'Europa League dans cette émission avec les clubs français, notamment le Rennes, Lazio de Rome et le Wolfsburg Saint-Étienne. On s'attardera en cette fin d'émission pour parler aussi du Big Five en huitième de finale de cette fameuse édition 2019-2020 de la Coupe aux grandes oreilles qui est la Champions League. Allez, n'oubliez pas le 01 53 48 3000, le numéro du standard. On se fera un plaisir de décrocher et de nous donner vos commentaires, vos analyses avec notre équipe de ce soir et aussi avec le hashtag TimeSport sur la tutosphère. C'est parti, go TimeSport.
TimeSport.
Et ce soir, pour m'accompagner, alors, il y a un petit peu de grabuge dans la région francilienne, il faut le rappeler. Et oui, encore des grèves. Yannis a été bien à l'heure et aussi l'équipe pour m'accompagner. En tout cas, on a le retour de la ravissante Anna. Comment ça va, Anna ?
Bonsoir Bilal.
Ça va, Anna Guédard Bouakaz avec nous. Et même nous, et nous aussi, on est heureux de t'avoir, Anna.
Merci beaucoup.
Et aussi Achille. Achille qui est un petit peu blessé hein, depuis le dernier tournoi de la CIF Cup, hein, 2019, on tient à le rappeler.
C'est ça,
ça va, Achille ?
Ouais, tout doucement. Tout doucement et fraîchement. Mais ouais. Toujours un plaisir d'être là.
On aura Yacine Bouali et sans oublier le coach Tollé dans cette émission. Allez, on va s'attarder sur la FIFA.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, la FIFA, donc, elle réclame de l'argent à Sepp Blatter, ancien président de la FIFA, et aussi l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini. Si le parquet national, Achille financier français, cherche toujours à coincer d'une quelque sorte Michel Platini pour corruption active et passive concernant les conditions d'attribution de cette fameuse Coupe du Monde 2022 au Qatar, Sepp Blatter semble enclin à filer un coup de main. Ce mercredi, l'ancien boss de la FIFA a révélé à l'AFP qu'il ne voyait aucun inconvénient à témoigner. S'il ne me le demande officiellement, je pense que j'irai en France car j'ai la conscience tranquille. Fermez les guillemets. Décidément, Platini n'en a pas fini avec ce chewing-gum qui lui colle à la chaussure. Anna, nous t'écoutons sur ce premier sujet de l'émission Time Sport.
Bilal Nedman. Alors, la FIFA continue à jouer son rôle. Elle continue à jouer son double jeu, si vous me permettez l'expression. La FIFA, que beaucoup prêtent le rôle d'un gouvernement à part entière, alors que c'est une association sportive, une fédération sportive, elle est en train de faire le nécessaire pour continuer à écarter au maximum Michel Platini pour son retour aux affaires du football. La preuve en est, après sa longue suspension suite à l'affaire avec Sepp Blatter pour les 2 millions de francs suisses qui ont été retrouvés sur son compte, alors que d'après l'intéressé lui-même, Michel Platini, il s'agissait d'un paiement d'une dette tout à fait normale entre la FIFA et l'UEFA.
Ouais.
La FIFA essaie de trouver toujours des problèmes à faire à Michel Platini de peur par son retour à la FIFA, parce qu'il faut savoir une chose, Bilal, avant que toutes ces affaires ne commencent, quand Michel Platini était président de l'UEFA, un président élu démocratiquement et un président qui avait fait énormément de bien à l'UEFA, il briguait le poste de la FIFA. Michel Platini voulait devenir le président de la FIFA.
Ouais.
Il y a une sorte de consensus à la FIFA qui ne souhaite pas
On dirait que Sepp Blatter ne voulait pas.
Exactement, il ne souhaite pas qu'il accède au plus haut rang de cette fédération internationale de football. Et Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA, a une peur bleue, je dis bien bleue, sans jeu de mots aucun.
Ouais, mais le connaît, je crois, c'est un ami à Michel Platini aussi.
L'équipe de France, Michel Platini.
Alors, justement, ouais, toi tu la regardes, on sait pas pourquoi. Oui, elle a un ravissant chapeau. Ah, il est magnifique le chapeau d'Anna.
Mais ça m'irait pas, moi j'ai trop de cheveux. Trop de cheveux. C'est vrai ?
Un chapeau avec un trou, moi, tu sais. Justement, le coach Tollé, réaction face à cette FIFA et aussi Sepp Blatter qui pourrait venir témoigner à l'encontre de Michel Platini.
Oui.
On va donner la parole à Achille, on t'écoute.
Bah écoute, on n'est pas sorti de l'auberge. Là, Platini a fait son grand retour.
Avec toi en plus.
Platini a fait son grand retour. Platini a envie de. On sent qu'il a envie de déballer plein de choses. On sent qu'il a envie de revenir aux affaires surtout. Et on sent que son retour n'est pas vu d'un bon œil de la part de pas mal de dirigeants. Donc. Rien d'étonnant quand on voit un petit peu tout cela. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ferait en tout cas plaisir de voir Michel Platini, par exemple, à la Fédération Française de Football. Pourquoi pas?
Ouais.
Pour commencer.
Wow. Pour
faire son retour.
Ouais, mais il était déjà président de l'UEFA, plutôt conquérir la FIFA, les instances mondiales.
On mettra les bâtons dans les roues, malheureusement.
Aïe, Achille, on t'écoute, Achille. Mais... Toi qui aimes bien ces dossiers croustillants du football, business.
Ouais, non, mais déjà, il faut savoir que. Cette affaire fait son retour que maintenant, pour une simple raison, c'est que Michel Platini a fini sa suspension au mois d'octobre.
Ouais.
Déjà, donc partant de là, forcément, il est de nouveau en lice, entre guillemets, pour une éventuelle campagne électorale pour pouvoir briguer éventuellement.
Mais il peut, Achille.
À la FIFA. Cependant, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Il y a eu une guerre. Une guerre.
Oui, mais il y en a toujours eu au sein de la FIFA, je crois.
Entre la FIFA et l'UEFA, donc à travers Platini et Blatter. Et que, manque de peau, il faut pas l'oublier non plus. Gianni Infantino, qui à l'heure actuelle est le président de la FIFA, était l'adjoint de Michel Platini.
Mais il avait toujours eu de bonnes relations quand même dans le temps avec Michel Platini.
À compter du moment où Sepp Blatter a donné son soutien officiellement à Gianni Infantino, parce qu'ils sont originaires de la même commune en Suisse,
ouais.
Forcément, il a choisi son camp. Donc partant de là, on se retrouve encore avec un remake de la guerre Platini-Blatter. Et Infantino a choisi son camp il y a quelques temps de cela, enfin il y a quelques années de cela, et manque de peau, on met des bâtons dans les roues à Michel Platini au maximum. On va sortir des casseroles quotidiennement, de telle sorte à ce que lui ne puisse pas briguer éventuellement un poste de candidat à l'éventuelle succession de monsieur Infantino.
Oui, alors qu'il purge toujours une suspension de 6 ans, on le rappelle, pour le paiement controversé de 1,84 million d'euros à l'ancien président de l'UEFA, Sepp Blatter va devoir aussi passer à la caisse, car l'AFP, l'Agence française de presse, annonce que la FIFA va saisir prochainement la justice suisse. L'objectif, Achille, Claude et Yana, récupérer les derniers de ce virement inopiné. Cette action en justice vise également à récupérer les amendes auxquelles les deux anciens dirigeants ont été condamnés, mais aussi les frais de procédure qu'ils n'auraient jamais payés. Comment compte-t-il se présenter à une quelconque élection avec toutes ces suspicions qui les entourent ?
Il faut qu'ils arrêtent en fait. Sepp Blatter, il est vieux, excusez-moi du terme, il est vieux, il est fatigué.
Ouais, personne âgé.
Voilà, laisse-le tranquille, il a fait ce qu'il a fait pour le football. Voilà, maintenant Michel Platini, lui, qui s'occupe de ses affaires personnelles, parce qu'il y a aussi également son fils qui est impliqué dans le Qatar Gate, avec des sommes beaucoup plus élevées que ça, à un moment donné, on a voulu, quand tu veux faire les gros bras et que tu manques de respect ou tu suis pas forcément les codes qui sont instaurés depuis un certain nombre de décennies, tôt ou tard tu le payes.
Tu veux dire, son fils il a reçu un peu de baguette de pain.
Une baguette de pain 10 millions d'euros, ça fait beaucoup quand même.
Ouais, ça c'est pas faux.
Ça fait beaucoup.
C'est l'équivalent de 10 millions d'euros de baguette de pain, c'est pas mal.
Ça fait beaucoup quand même.
C'est pas mal.
Donc justement. Non, après partant de là, voilà, il faut c'est juste encore une instrumentalisation. Le football n'a pas besoin de ça. On devrait plutôt se focaliser sur les avancées comme la venue de Gianni Infantino en Afrique qui annonce beaucoup de promesses qui semble beaucoup plus attrayant plutôt que des procès des gens qui en soi ne paieront rien parce qu'on le sait tous quoi.
Ouais, des promesses, mais peut-être est-ce qu'elles aboutiront ces promesses? En tout cas, Gilles.
C'est bien parti pour parce que lors de sa visite il a participé à la construction des premiers stades. Il y a des engagements avec différents annonceurs. Ils espèrent avoir à peu près 1 milliard d'euros pour pouvoir financer le football africain. Voilà, je préfère que la FIFA se concentre à ça plutôt de perdre du temps avec la justice suisse pour aller récupérer, excusez-moi du terme, 2 millions d'euros, somme qu'ils ont largement dans leur caisse. Quoi.
Ouais, le côté tollé. Justement, toujours ces querelles entre anciens et actuels présidents des instances du football, l'UEFA,
il n'a
pas tort, les fédérations,
ça les nations. Existé, ça existera toujours, tu as ces problèmes politiques, tu as ces problèmes de pouvoir, tu as... Je pense qu'on n'a pas encore terminé parce que Michel Platini m'a l'air quand même extrêmement décidé et déterminé. Est-ce qu'on fera en sorte qu'il se casse la gueule une seconde fois? Je n'en suis pas sûr. Après, concernant Gianni Infantino, oui, bah c'est bien ce qu'il fait pour l'Afrique, ça lui permettra d'avoir des voix supplémentaires dans un premier temps. Et puis après, moi, je reste toujours sceptique sur cette Super League africaine parce que je m'inquiète pour le reste des équipes, mais bon, on verra. On verra plus tard.
Non, mais ouais. Si le football.
Tu es assez confiant, toi?
Pour
Pour le football africain, football aussi mondial.
Assez confiant pour le football.
Non, toi, non. Toi, non. Toi, tu es assez confiant.
Non, bah non, parce que tout ce qui leur intéresse, c'est la masse financière, c'est les moyens, c'est, etc. Ok, c'est très bien.
Mais si ça peut permettre. Alors,
ça a tué le football d'en bas, c'est très bien que tu as besoin du football d'en bas pour le.
Pas forcément, ça se trouve que.
Là, oui, le coach étonné.
Les gros clubs, les 20 clubs qui sont censés représenter cette fameuse ligue vont peut-être amener aux petits clubs qui sont tout autour des financements supplémentaires, de la compétitivité. Ils vont avoir des retombées économiques obligatoirement. Donc, alors certes, comme toujours, il y a toujours des gagnants et toujours des perdants. Mais pour une fois qu'on s'intéresse à l'Afrique, pour une fois qu'on fait quelque chose, eh ben on va pas se plaindre. On va pas se plaindre en fait.
Elle n'a pas tort.
C'est vrai.
Anna aussi, elle est d'accord.
Non,
allez, Achille, on va flancher du côté d'Achille. Allez, on va voir. Ta réaction, justement. Oui.
Ma réaction. Pour une fois qu'on s'intéresse à l'Afrique, c'est très bien pour une fois qu'on s'intéresse à l'Afrique.
Qui,
encore une fois, ça va nous permettre d'avoir des voix. Et c'est très bien qu'ils fassent, pourquoi pas, une Super League en Afrique. Ça va permettre, oui, pourquoi pas, à ces clubs-là de se structurer. Mais encore une fois, déjà, la formation est tellement fragile. T'as dit peut-être que, on n'en est pas sûr. Moi j'aimerais que tu vois qu'il y ait une feuille de route et qu'on te dise, ok, ça permettra également à ces petits clubs de pouvoir se former. Ça permettra peut-être, pourquoi pas, on en avait parlé, rappelle-toi, d'avoir peut-être une division aussi, une seconde division. Et là, pourquoi pas, ok, mais si tu en as que 20, mais que les 150 autres clubs, ils sont à la ramasse, je vois pas comment ça pourrait évoluer. C'est mon point de vue.
Pas faux.
Après, il y a Anna qui le disait, la FIFA. Ce n'est même plus une organisation sportive, c'est un État.
Ah oui.
C'est un État à part entière. C'est-à-dire que c'est
d'accord.
De la politique. Donc, partant de là, il y a des promesses qui sont faites. Bon, est-ce qu'elles vont être tenues? A priori, c'est bien parti pour.
C'est
bien parti pour.
Exactement.
Donc, laissons le temps au temps, on va voir. Et dans tous les cas de figure, on avisera. Mais pour en revenir au point initial, Michel Platini qui se retire. Qui a la retraite, qui s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants, qui donne des petits conseils, plutôt que d'aller dans les stades de foot, insulter les Qataris avec les mêmes avec qui ils étaient à l'Élysée.
Un homme de son âge aussi facilement, tu penses qu'il va laisser son
retirer,
dire au revoir au foot?
C'est ça, il vient d'arriver, il a tellement de temps chez l'enfant,
c'est du pouvoir. Maintenant, à sa place, il devrait se retirer, faire un monde honorable. Il a fait son temps, c'est bon. À un moment donné, où est le ridicule? Il s'en va au Parc des Princes.
Ouais.
On regarde un match au Parc des Princes en compagnie des plus grandes instances pour critiquer derrière l'état du Qatar via l'émir, or que on apprend quelques années plus tôt que lors de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il était en entretien avec et il lui léchait les bottes à l'émir du Qatar. À un moment donné, comment voulez-vous que ce type de personne-là, lorsqu'il prend une décision, fait volte-face
peut-être
deux minutes après.
Il n'a pas eu ce qu'il voulait de l'émir du Qatar, c'est pour ça qu'il s'est retourné contre lui.
En tout cas, son fils, il a eu quelque chose. Donc,
merci Achille pour toutes tes infos, même Anna et aussi le coach Tollet. Allez, on poursuit cette émission avec de la Champions League.
Time Sport.
Eh oui, 7e et à 7 points de la tête en Bundesliga. Eh oui, c'est dit, le Bayern de Munich vient d'envoyer le meilleur bilan jamais réussi en phase de groupe de Ligue des Champions. 18 points sur 18 possibles après sa victoire contre les Spurs de Tottenham 3-1, il faut le rappeler. Et si le Rocketmaster profitait du marasme à la maison pour aller chercher l'Europe? Oui.
Le Milan n'a pas fait ça en 93.
On va en parler après.
Ligue des Champions.
Justement.
On va en parler après. 18 points.
Justement, on verra. On verra, d'Arrigo Sacchi.
Milan AC. Non, de Fabio Capello.
De Fabio Capello. Justement.
Tu viens alors. En faire et tu spoil.
Non, non mais... sans rien, là, ça me vient comme ça. Moi, je pense à Van Basten, je pense à Gullit, à Rijkaard, les Simassi Victoire, Göteborg, Porto avec
toi.
J'ai pas besoin.
Les a révisés, en tout cas. Anna, on t'écoute. Peut-être sur le Bayern de Munich, alors.
Oui, un Bayern de Munich à deux visages, vraiment. La saison du Bayern de Munich est totalement étrange, Bilal. On sait que c'est une année qu'on peut appeler de transition pour le Bayern de Munich. Les cadres sont partis. Ribéry, Robben, Thomas Müller. Et Thomas Müller est sur le déclin. Ouais. Il baisse le niveau, ce qui est normal par rapport à son âge. Ainsi que le gardien emblématique de l'équipe d'Allemagne du Bayern, Manuel Neuer.
Oui, c'est ça.
Qui n'est pas aussi impérial qu'il ne l'était. Mais malgré ça, le Bayern de Munich est le premier de sa poule avec 18 points en 6 matchs. Un sans faute en Ligue des Champions, alors que dans le championnat, chose que le Bayern de Munich survole depuis un bon nombre d'années, et sans à l'appel, ils viennent encore de perdre le week-end dernier contre une valeureuse équipe de Mönchengladbach. 2-1, sur un doublé d'ailleurs, je tiens à préciser, du défenseur algérien Rami Ben.
Yacine sort de ce corps. Ouais, c'est ça.
Non, on a tout ça dans le sang, les Algériens. On est tous
apparemment, Thuram sera algérien en demi-finale de la Coupe du Monde. Il a mis le doublé.
Le Bayern de Munich est dans une année de transition avec un coach qui a été licencié en cours de saison. On va voir ce que ça va donner pour l'année prochaine. Mais cette année, je ne pense pas qu'on pourra compter sur le Bayern de Munich qui a régné sur son championnat et qui a toujours été dans le dernier carré lors des éditions précédentes, Bilal.
Ah, justement, merci Anna pour toutes ces informations sur le Bayern de Munich. Un petit clin d'œil à notre Bundesboy Nassim Bourras. Alors, le coach Tolé, avant de donner la parole à Achille, ce Bayern.
Ouais, bah écoute.
Il fait fureur en tout cas.
En Coupe d'Europe, ils ont toujours été présents, ils le seront toujours. C'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien, ils sont dans une phase, comme l'a dit très bien Anna, de transition avec le départ notamment de Robben, de Ribéry. Donc même si c'est un excellent joueur, bah, tu ne les remplaces pas comme ça. C'est une politique assez particulière aussi à côté de Munich. Après, tu sais, en Coupe d'Europe, tu sais pas. Hein. Moi, je me souviens de Chelsea qui arrivait en fin de course en 2012, l'année où on les attendait pas forcément et qui remporte la Ligue des Champions. Donc après, tout est possible. Faut se méfier quand même de cette équipe qui a du talent, mais c'est vrai qu'ils paraissent un petit peu moins armés. Mais la vérité de la première partie du champion de la saison n'est pas souvent celle de la seconde partie. Donc attendons de voir.
Alors, Achille.
Moi, je tiens juste à rappeler que lors d'une précédente émission, j'avais fait un petit topo sur le Bayern. J'avais dit que c'était l'équipe à surveiller de très près.
Bien sûr.
Là, il faut le souligner quand même, l'exploit du Bayern. Seuls 5 clubs, 5, il n'y a pas que le Milan, mais il y en a 5 en tout, qui ont réalisé cet exploit de finir invaincu lors de cette phase de poule. Vous avez donc, t'as l'AC Milan de 92-93.
Ah, bah voilà. Effectivement. Le premier.
Tu as le Paris Saint-Germain.
J'aime
bien le préciser. Paris. Voilà. Paris 94-95.
Paris. Éliminé en demi par le Milan AC.
C'est ça. Ouais. T'as le Spartak Moscou l'année qui suit, 95-96, le FC Barcelone, 2002-2003. Et pour finir, le Real Madrid qui l'a fait à deux reprises. Voilà, en 2011-2012 et 2014-2015. Sauf que, voilà, ça c'était pour donner un petit peu plus de consistance à ce que tu disais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a qu'un seul club parmi les 5 que j'ai cités qui est allé jusqu'au bout. C'est le Real Madrid, de la dernière année donc, c'est-à-dire 2014-2015. Alors quand on voit effectivement le parcours du Bayern de Munich, et l'effectif qui s'est considérablement bien étoffé, je pense que le départ de Robben et Ribéry ont bien été remplacés avec des joueurs comme Perisic, avec Serge Gnabry, Kingsley Coman qui malheureusement hier s'est quand même blessé une nouvelle fois. L'avenir laisse penser que ça devrait le faire. Maintenant, on va suivre ça d'assez près. Il faut rester quand même prudent parce que Claude le disait aussi bien.
Ouais.
Il faut faire extrêmement attention. La première phase de poule de la Ligue des Champions n'est peut-être pas ce qui va arriver
l'année d'après. Merci l'équipe de Tam Sport. On se retrouve juste après, chers auditrices et auditeurs, cette courte pause. À de suite.
Tam Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h-20h, en compagnie toujours de Anna, sans oublier le coach Tollet, et à Achille pour m'accompagner durant cette émission, comme chaque jour, du lundi au vendredi. On va aborder le cas après le Bayern de Munich et son excellent parcours en face de poule de cette fameuse Ligue des Champions. Allons, on s'attarde sur le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, le PSG écœure l'Estambouliote du Galatasaray, 5-0, aïe aïe aïe, et termine en beauté aussi. Il n'y a pas que le Bayern de Munich, vainqueur sans forcer face à Galatasaray en Coupe des Champions, en Champions League. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain avec un 11 expérimental a bouclé une phase de groupe presque parfaite. Icardi, Neymar, Mbappé et même Cavani ont marqué. Que penser de ce petit concert de louanges suivant la prestation de nos Parisiens qui dénotent avec le scepticisme ambiant précédant la rencontre, ambiance délétère provoquée par les turbulents Neymar et Mbappé, la calvaire aussi de Edinson Cavani, la position instable de Thomas Tuchel. Mais oui, le PSG est toujours là, et bien là. Anna, on t'écoute.
Eh bien Bilal, il faut dire ce qu'il en est. Les Turcs n'étaient pas venus pour gagner le match, on va pas se mentir.
Ouais, mais on croyait quand même qu'ils allaient faire un bon petit match.
Au mieux à faire un match nul. C'est tout ce qu'ils pouvaient espérer de mieux. Bon, ouais. Hormis la victoire de 5-0, le but de Neymar, de Mbappé, de Ricardi, comme tu viens de le citer, je retiens quelque chose d'exceptionnel.
Alors c'est quoi ?
Je retiens cette image où, suite à une faute sur Mbappé, Neymar prend le ballon. Neymar qui a le pouvoir, le droit et l'instruction de son coach de tirer les pénaltys. Neymar le souliste, l'égoïste, Neymar le personnel. Eh bien, Neymar prend le ballon, il va chez son confrère d'attaque Cavani, le Brésilien Neymar, qui donne à l'Uruguayen.
Ouais, c'est ça.
Cavani, et lui dit, c'est à toi de tirer le pénalty. Cavani a tiré, a marqué, et le parc s'est enflammé. Les deux stars du PSG se sont réconciliés, parce que tout le monde se souvient du fiasco qu'il y a eu l'année dernière, quand Neymar a voulu tirer à la place de Cavani, et qu'après il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, Neymar a fait un coup de com' exceptionnel, un match, un rachat, pardon, près de son public, parce que Cavani reste le chouchou du Parc des Princes. Donc, le PSG a gagné 5-0, 5 buts marqués, 0 encaissés. Le PSG premier de sa poule devant le Real Madrid. Le PSG solide. Je pense qu'il peut arriver très très loin cette année. N'oublions pas qu'ils ont une quinte royale, si quelqu'un joue au poker ici, qui est assez exceptionnelle. Di Maria, Cavani, Neymar, Ricardi et Mbappé. Franchement, ça a de la gueule.
Ouais.
C'est vrai ou pas ?
Ouais, pas faux. Moi, je suis d'accord avec toi, Anna. Le PSG, c'est très fort. On va essayer de rêver plus grand, n'est-ce pas, le coach Tollet, sur cette saison 2019-2020. Peut-être la bonne. Hein, c'est Yanis qui me le disait, ça. On t'écoute.
Moi ça fait, de toute façon, depuis quasiment le début, alors, il y en a qui vont dire que j'exagère, depuis le début des Qataris, que le PSG a des effectifs pour la gagner. C'est encore plus criant depuis 4 saisons. C'est vrai que là, quand tu vois sur le papier ce qui est proposé offensivement, oui. Et puis on parlait tout à l'heure de la stat du Bayern de Munich. Je pense que le PSG est l'équipe qui a peut-être pris le plus de points en match de poule depuis bien 4-5 années.
Ça marche bien pour le Paris Saint-Germain, oui.
Toujours, ils sont toujours au top. Et c'est vrai que là, dans un groupe qu'ils ont tellement dominé qu'à deux journées de la fin, deux trois journées de la fin, ils étaient déjà quasiment qualifiés. Donc chapeau à eux. C'est vrai que on attend beaucoup plus quand t'as Neymar, quand t'as Mbappé, quand tu te dis qu'avec ces joueurs au détriment d'un collectif, ça peut permettre d'avoir un Paris Saint-Germain beaucoup plus fort. Et on a raison et on est dans le droit de se dire qu'on attend beaucoup plus. Maintenant, la Coupe d'Europe, c'est autre chose et tu vois que lorsqu'il y a le parfum européen, ces gars-là se font plaisir parce qu'ils sont à leur niveau. Ce que tu ne retrouves malheureusement pas au quotidien en Ligue 1. Maintenant, il va falloir être capable de le montrer, le démontrer lorsque tu vas avoir une adversité, lorsque tu vas avoir ces matchs à élimination directe. Et il faut surtout que mentalement, ces joueurs-là soient prêts. C'est pas sur le terrain. Les joueurs sont là pour renverser n'importe qui. Par contre, mentalement, c'est ce qu'on attend. Ils ont jamais. Enfin, ça fait depuis pas mal de temps qu'on les voit ne pas être à la hauteur des événements. Et c'est ce qu'on attend du Paris Saint-Germain, quel que soit l'adversaire.
Premier au classement de cette phase de poule de Champions League, mais aussi dans son sacré championnat qui est la Ligue 1 Conforama, la Ligue des Talents. Achille, rien à dire sur le Paris Saint-Germain ?
17 buts marqués, 2 encaissés.
Pas mal.
0 victoire. 0 défaite, pardon.
Ouais.
Un match nul.
Ouais.
Hier, ça a été déjà une bataille qui a été gagnée dans les tribunes. Parce que je tiens à féliciter d'ailleurs les supporters qui ont vraiment poussé l'équipe du début jusqu'à la fin. Et j'ai une pensée toute particulière aux supporters parisiens qui s'est retrouvé à l'hôpital suite à des...
aux affrontements, voilà, oui.
Aux affrontements. Écoutez, avec la Porte Saint-Cloud. Voilà, ouais. Il y en a d'autres même qui ont fini nu devant le Parc des Princes. Donc j'ai une grosse pensée pour eux. Et je pense que les joueurs ont été à la hauteur du rendez-vous. Il y a deux lectures. Quand on voit un peu la physionomie du match, déjà on s'aperçoit des choix tactiques mis en place par Thomas Tuchel, où là on se dit, on s'est tous posé la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Même moi, quand j'ai regardé le match, il m'a fallu à peu près 4-5 minutes pour me rendre compte du système tactique qui a été mis en place, des joueurs à quel poste. Et oui, c'est la victoire de Thomas Tuchel. Hier soir, c'est la victoire de Thomas Tuchel.
Quoi, il a compris alors ?
Les joueurs ont adhéré au principe de jeu de Thomas Tuchel. C'est-à-dire qu'il y a eu de la combativité. Les Winkerzawa qui jouent arrière droit dans un système en 4-4-2. C'est quand même assez particulier. On a pu voir Mbappé qui fait des retours défensifs, Neymar qui s'est donné jusqu'à la 88e minute à produire des efforts défensifs. Alors oui, certes, comme Anna le disait, il y a le geste de Neymar vers Cavani pour lui redonner de la confiance, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience du groupe sur le fait que chacun est important et que c'est ensemble et quand ils sont une équipe qu'ils vont pouvoir effectivement aller très probablement au terme de cette compétition. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. On n'est qu'au mois de décembre. La vérité du mois de décembre n'est pas forcément celle du mois de février. On va attendre lundi les tirages qui auront lieu.
Exactement.
On va voir comment l'équipe va se préparer. Mais je tiens juste à préciser qu'il y a un petit bémol.
C'est lors de la
conférence de presse de Thomas Tuchel d'après-match, il était extrêmement énervé. Il n'était pas content. Lorsqu'il transmettait ses informations, avec un message très positif envers ses joueurs et autres, il a mis systématiquement, on sentait qu'il y a un problème dans le vestiaire. Il y a une cassure.
Ouais.
Reste à déterminer maintenant si cette cassure, elle est émanante du fait que je ne suis pas un fan de Cavani. Mais c'est vrai que lui donner un peu plus de temps de jeu et ainsi de suite, ce ne serait pas trop demandé compte tenu de l'avance qu'il y avait en Ligue des Champions, qu'il y a en championnat. Là, il y a la Coupe de France qui va commencer aussi. Je pense qu'il y a une fracture et que le geste de Neymar envers Cavani, j'irais même plus loin, ce serait peut-être un geste de défiance envers Thomas Tuchel. Je pense qu'il y a une scission.
Ouh là 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 là, quand même, c'est assez chaud là ce que tu viens de nous lâcher là. Anna, avant de donner la parole, le coach Tollet.
Ouais.
Défiance.
Ouais.
Vis-à-vis de Thomas Tuchel, c'est assez fort.
Cavani, moi, ce que je trouve fou, c'est que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cavani, on te parle quand même d'un joueur qui a marqué l'histoire du PSG. Mais c'est-à-dire qu'il l'a marqué déjà, il est arrivé, Ibrahimovic, etc., sur le côté droit, collectif et tout, meilleur buteur, et puis tu l'entends pas, le mec. Tu l'entends pas, et en fin de compte, alors que tu mettes Icardi aujourd'hui, parce que même s'il participe pas au jeu, mais au moins il est efficace, c'est ce qu'on demande à un attaquant, c'est pas un souci. Mais là, on parle quand même de Cavani, on parle quand même d'un mec qui t'a mis je ne sais combien de buts, qui t'a sorti de situations difficiles. Je te parle quand même d'un joueur qui a marqué le club. Et là, en fin de compte, moi, c'est mon point de vue en termes de, enfin, au niveau de l'utilisation du joueur, t'as le sentiment que c'est un sixième choix, le mec.
Mais c'est
ça qui est frappant et qui est vraiment marquant. Faut
pas se mentir. Déjà dès l'année dernière, dès sa prise de fonction, Thomas Tuchel ne voulait pas de Cavani. Il en voulait pas. Et c'était à outrance le duo Neymar-Mbappé et Cavani étaient là. On avait l'impression qu'il végétait sur le terrain, mais Thomas Tuchel n'en veut pas. C'est juste que là, tout simplement, les joueurs D'où l'attitude de Cavani, ouais, qui est une attitude exemplaire.
Et ça manque de respect. Voilà,
exemplaire et ainsi de suite. Je pense que c'est un cadeau des joueurs pour lui dire on te soutient, on est avec toi.
Mais pourquoi,
même face à l'adversité.
Pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi on n'a pas mis sur la liste des transferts s'il n'en veut pas, clairement, ouais.
Mais il a été mis sur la liste des transferts. Sauf qu'il a pas voulu partir.
C'est vrai.
Oui. Tout simplement, il a un vrai contrat au Paris Saint-Germain. Il faut le comprendre, il faut se mettre à sa place.
Ouais, Cavani.
Non, mais je comprends. Non, mais ok.
Il était à la touche.
Rihanna.
S'il ne se sentait bien au PSG, il serait parti.
Oui, s'il se sentait pas bien, il serait parti.
Ah ouais.
Donc c'est qu'il a un environnement.
Mais pourquoi il le prend dans le groupe alors?
Bah, il le prend parce qu'est-ce qu'il a le choix.
Bah si, tu passes.
La pression est trop forte aussi quand même.
Tu prends un jeune.
Renommée internationale.
Mais tu fais jouer à part que tu le fasses rentrer deux minutes ou ne pas le prendre. Franchement, autant ne pas le prendre. Hein. Non, mais honnêtement, quand tu le fais rentrer, je comprends ton argument, il y a pas de souci. Mais il le fait rentrer comme si c'était un jeune de 16 ans, 17 ans.
Le prend même pas. S'il le prend pas, il va devoir rendre des comptes au cadre de l'équipe et puis à ses supérieurs hiérarchiques.
Mais il rentre pas de toute façon. Il joue même pour un match où Galatasaray déclare quasiment forfait avant de commencer le match, il ne fait pas jouer, c'est ça que je trouve dommage.
Ben, j'étais aussi dans la même idée que toi.
Alors,
et figure-toi qu'avec un peu de recul, je me dis, c'est pas plus mal, pour une simple raison, Thomas Tuchel cherche à créer des automatismes avec Neymar, Mbappé, Icardi, pour qu'il y ait une certaine fluidité et que lors des futures confrontations contre des gros, ils puissent effectivement être au top de leur forme en fait.
Ouais.
Et qu'il y ait des vrais automatismes.
Et Di Maria.
Oh ben, Di Maria, lui, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est vraiment une douleur musculaire? Moi, je soupçonne autre chose.
Tu vois, Di Maria, là, par exemple.
Il y a beaucoup de substances, Achille, hein, ces derniers temps.
Tu vois, Achille, Di Maria, moi, je te parle perso. Hein,
c'est le meilleur parisien depuis deux ans.
Avec du recul. Mais c'est clairement c'est le plus régulier. C'est-à-dire que lui, que tu joues Dijon, le Real Madrid, qui tu veux, tu sais aussi bien que moi, il est toujours à 200%. Et il a un état d'esprit qui se rapproche un petit peu
de celui de
Cavani, exactement.
Bah, ah ouais.
Quand tu vois un petit peu le début de saison du Paris Saint-Germain, sans Neymar et Mbappé, ça a été costaud. Une grosse équipe.
C'est ce qu'on disait il y a deux jours.
Voilà. On en a parlé hier aussi.
Sauf que, à la différence, c'est que hier, on a pu constater que lorsque Neymar et Mbappé se mettent au diapason de l'équipe, on a vu le rouleau compresseur que c'était. Et partant de là, c'est dans la gestion, et comme le disait si bien Marion Aïdalo, avec qui on lui fait de gros bisous, on va voir la gestion de Thomas Tuchel, qui jusqu'à présent, il assume tous ses choix. Et il le dit, Cavani est sur le banc, c'est mon choix. C'est mon choix. S'il y a quelqu'un sur qui il faut taper, c'est moi.
On verra par la suite, justement, Edison Cavani. On espère qu'il restera encore parisien pour longtemps. Les huitièmes de finale qui rapprochent. Et le lundi 16 décembre, à partir de 12h heure française, depuis le siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse, on s'attardera justement sur le premier chapeau avec le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, Manchester City, la Juventus de Turin, Liverpool, FC Barcelone, RB Leipzig et aussi le FC Valence. Dans le deuxième chapeau, le Real Madrid. Et oui, Tottenham, Naples, Dortmund, Lyon, Chelsea, l'Atalanta, Bergame et sans oublier les Colchoneros de l'Atlético de Madrid. Vous restez avec nous, on reviendra justement sur ces gros clubs d'Europe en cette fin d'émission et on s'attardera aussi sur la Ligue Europa, sur l'Europa League. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman.
Et toute l'équipe de Tamsport, je le rappelle, Anna et aussi le coach Tolé, Achille, on nous écoute du côté de Rouen, le 98.7. Un petit clin d'œil à Mohand et toute l'équipe de Fou de Sport chaque week-end, le dimanche, 18h-20h. Et la suite des programmes après Tamsport, on retrouvera toute la bande à Philippe. Allez, on va s'attarder sur la Ligue Europa. Et oui, cette fameuse Coupe d'Europe aussi avec un alléchant Wolfsburg et Saint-Etienne. Ça va faire plaisir. Il sera, à mon avis, devant son petit écran, c'est Simon Balachef. Mais Rennes a ouvert le score face au Lazialiste de Roma. Et oui, la Lazio de Rome qui rencontrait actuellement les Rennais pour justement essayer de se qualifier. Mais je crois que bien qu'ils sont en bonne posture vis-à-vis de nos Rennais. Donc, club français, c'est pas trop ça en Ligue Europa. Et tu peux nous en dire un peu plus, Achille, n'est-ce pas? Du côté du Horizon Park, bon, on s'est réveillé, mais c'est un petit peu trop tard, je crois.
Match sans intérêt. Entre une équipe de racistes.
Achille.
De la Lazio de Rome. Je parle même pas de. Et pour l'avoir vécu,
pour l'avoir vécu de mes propres yeux.
Ça, c'est chaud quand même.
Avoir subi, c'est une équipe de vrais racistes. Avec, il faut pas oublier les Paolo Di Canio et autres.
Ouh là 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 là. Mauvais souvenir.
Les nazis, les supporters, j'en parle même pas. Donc pour une fois, si la Reine est en train de gagner un match, ben c'est il faut t'arrêter là en fait là. C'est pour une fois qu'un club français cette saison en Ligue Europa fait quelque chose d'intéressant. Ben bon, on va le souligner, oui, on va applaudir trois secondes, mais sinon en soi, ouais. Quand tu vois la physionomie de cette Ligue Europa,
on n'arrive pas, Gilles. Zéro, comment ça se fait?
Zéro victoire. Ils ont zéro victoire. C'est un truc de fou. Tu voyais les budgets que le budget qu'a Rennes, qu'a Saint-Etienne. Contrairement
surtout cette saison, surtout
voilà, surtout cette saison, et avec l'arrivée des futurs droits télé aussi via Mediapro, à un moment donné, ils ont quoi envier des petits clubs comme Braga, comme des petits clubs suisses ou autres,
portugais, les Belges essayent d'être présents, mais c'est fou.
Et compagnie. Non, c'est la honte du football français. C'est une compétition pour laquelle les clubs français passent leur temps à pleurer. Oui, on a besoin d'argent, on a besoin de choses, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et derrière, quand ils y arrivent, ils la jouent pas. Ils ont des effectifs pour. Ils ont des. Et le pire, c'est que les deux clubs là, Rennes et Saint-Etienne, ont des centres de formation extrêmement bien fournis. Ouais. Donc, ils ont la possibilité de faire jouer des jeunes pour qui ça peut être une porte d'entrée, la visibilité ou autre. Au final, ils ne le font pas. C'est de la bérésina.
Ouais.
C'est français. Ça leur passe au-dessus de la tête. Et franchement.
Et Claude Puel.
Alors, Anna.
Il encourage les jeunes.
Oui, il a raison.
Il essaye.
Oui, c'est vrai.
Pas faux.
Anna, elle a raison. Claude Puel lance beaucoup de jeunes.
Ouais. Ouais. Alors on t'écoute, Anna.
J'arrive plus à comprendre ni à suivre la Saint-Etienne. Voilà.
Ouais, mais il y en a pas mal. Hein. Il n'y a pas que toi, Anna.
Voilà, et je partage le même avis d'Achille. Par contre, Claude Puel commence à sentir la fatigue.
Ouais.
Il veut lancer les jeunes. Oui, c'est bien, mais de toutes les façons, il est connu pour être un formateur dans l'âme. Pour être quelqu'un qui aime recruter, avoir des jeunes à sa disposition. On se souvient de Claude Puel à Lyon, à Monaco, à Lille. Il a toujours été un entraîneur qui va vers les jeunes et qui leur donne leur chance. Maintenant, est-ce que c'est une bonne solution en plein mois de décembre pour un match où il y a quand même un enjeu de lancer ces jeunes et de leur faire tourner la balle? Dieu seul le sait. Je pense que de toutes les façons, un jour ou l'autre, il faut se lancer et que la S Saint-Etienne a un centre de formation qui est quand même assez important, comme l'a dit Achille. Il est très, très professionnel. Donc, si Claude Puel, le coach rigoureux, décide de lancer ses jeunes pour ces matchs-là, je pense qu'il sait ce qu'il fait et peut-être que ça va être un plus pour la Saint-Etienne. Quoique,
on espère.
Vraiment, c'est
un. C'est la double tranche.
Pour les saisons à venir, un changement total, radical. Le coach.
Nanam, ils ont bien résumé. C'est Puel, il a assez d'expérience. Il a toujours fonctionné comme ça, que ce soit à Monaco, que ce soit à Lille, que ce soit à Nice, même en Angleterre. Voilà, toujours, il a toujours eu. C'est un vrai formateur de base. Donc s'il lance des jeunes, c'est qu'il estime qu'ils en ont les moyens. Moi, j'aime bien cette politique en tout cas. Donc il fait bien et puis synthé. Oui, même si on en parle peu, reste l'un des centres de formation les plus importants de l'Hexagone.
Ouais, Achille, on termine avec quand même les Rennais face à la Lazio. Vous voyez, peut-être même si c'est terminé.
Ouais, même si.
Un but à zéro.
Même si ils gagnent, c'est bien, ça va leur payer leur prime pour aller faire les cadeaux de Noël. Voilà, c'est tout.
Franchement. Achille, non.
Il a raison. Mais qu'est-ce qu'on.
Mais là, je connais tout. Toi aussi, tu lui donnes raison.
Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie le jeudi? Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie le jeudi soir? T'as envie de faire un after-work tranquille, tu regardes le match, t'as plus envie, t'as envie de faire dodo.
Ça me fait plaisir de voir mon ami Mbanyang qui va toucher une belle prime si jamais. Il gagne un match Rennes en Ligue Europa, faire des beaux cadeaux pour ses enfants, pour les proches et pour tous ceux qui sont dans le besoin. Oui, c'est intéressant. Après, du côté sportif, j'en parle même pas.
C'est le football, il y a toujours des surprises. Hein.
Et nous, ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de surprises en Ligue 1, c'est qu'on se fait éliminer les 4-5 fois du premier tour.
Merci. Eh ben, on va voir la fin de cette émission avec la dernière rubrique.
Time Sport, le mode pressing.
Ouais, une info annoncée, justement, je vais me retourner vers toi, Achille Sampaoli, qui quitte Santos. Il sera donc resté un an, quasiment jour pour jour, nommé à la tête du Santos FC. Le 13 décembre 2018, il a présenté sa démission au club lundi soir, à laquelle elle a été acceptée dans la foulée. Pourquoi pas, Sampaoli du côté du Paris Saint-Germain. Oh là là, là crois-moi qu'il y aura des joueurs qui se manqueront pas. Hein, et là, il y aura vraiment une effervescence, je crois, non, dans les couloirs du parc. Non,
non, non,
non, c'est impossible.
Non, 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 non. Déjà, ce problème comme ça au PSG pour nous emmener des fanfarons comme de Sampaoli. Non, c'est bon, ça va.
Ouais, ça ferait du bien.
Non, 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 ça va. Ça va aller, ça va aller, ça va aller.
Ok. Ben ça va. On va s'attarder justement sur ce Big Five en huitième de finale de la Ligue des Champions, une première peut-être, alors que le tirage au sort aura lieu, comme on l'a rappelé, ce 16 décembre du côté de Nyon en Suisse. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions version 2019-2020 sont déjà entrés dans l'histoire peut-être. Pour la première fois dans la compétition, il n'aura en effet que des représentants des cinq grands championnats européens. A-t-on besoin de faire une ligue fermée finalement quand les budgets colossaux de ces championnats sont chargés pour l'UEFA. Justement, Anna, on t'écoute. Eh oui, le football business.
Bilal, c'est un peu normal parce que l'argent appelle la réussite. La réussite appelle le résultat. C'est aussi simple que ça. Le Big Five a des moyens très conséquents, comme tu l'as dit. Ils achètent qui ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent.
Ah, c'est choquant.
On est arrivé dans une sorte d'économie parallèle au football. Où maintenant la négociation est l'ultime étape. Ce n'est plus un problème, le prix du joueur ou le prix des transferts. C'est plus difficile de convaincre un joueur de venir dans un club que de l'acheter et de payer selon l'attribution le montant de la clause libératoire de ce joueur-là. Donc ce n'est pas une surprise. Le Big Five, c'est bien. Tout rentre dans l'ordre, on va dire. Tout rentre dans la rationalité la plus normale par rapport au budget ou aux investissements qui ont été accompli cette année. Maintenant, il faut savoir que, en ce qui concerne le championnat de France, le PSG joue dans un championnat tout seul. Je suis désolée de le dire. Malgré 3 ou 4 défaites au championnat, même si c'est énorme sur 10 matchs joués, le PSG n'a pas besoin de se fatiguer pour gagner ses matchs en championnat de France. Et restera encore tant que le Qatar et tant qu'il est soutenu par cet État. Je ne mettrai pas un euro sur une autre équipe qui pourrait gagner le championnat contre le PSG. Je pense que ça va être consécutif pendant 10, 15, 20 ans.
Wow.
Le PSG est...
C'est tout ce que j'espère, moi.
Il est loin devant les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG est beaucoup plus préoccupé par la Ligue des Champions que par le championnat de France, en toute honnêteté.
Hein. Ouais, le coach Tolé, 10, voire 15... 20 ans, waouh, ça c'est chaud. Achille, il aimerait. Et tous les supporters du Paris Saint-Germain aussi, je crois.
Il a raison.
Ouais.
Ils ont raison.
Ah ouais.
Ils ont raison.
Ça me fait penser à l'après 98, France 98, où je me rappelle certains, même d'entre vous, peut-être, regardez juste le score à la fin, Achille. N'est-ce pas? Ouais, tu tapais des sombreros, voir des passes d'aise
de qui?
De Zizou. Oui, les matchs, les qualifications.
Mais l'équipe de France, faisait des matchs 4-5-0 et tout.
Achille Larigot, quoi.
Des gens heureux. Non, mais c'était ça.
Enfin, voilà.
Mais ça, c'était avant. C'était avant, mais après, non, pour en revenir, c'est vrai que quand tu vois le tableau qui se présente, tu penses tout de suite à cette Super Ligue européenne. Voilà. Enfin, écoute, moi, je suis pas un grand fan, perso. Mais bon, écoute.
On a remarqué que t'étais pas un grand fan.
Là, je suis pas un grand fan parce que ça tue le football, encore une fois, mais bon, après. Après, l'histoire du Big Five, ça me fait rire aussi parce que je pense qu'en France, vraiment, à part le. Bon, t'as le PSG qui est régulièrement. Non, t'as quand même le PSG Lyon qui sont régulièrement, mais c'est quand même une surprise de ne pas avoir un des clubs portugais, le FC Porto surtout, qui est régulièrement est en Coupe d'Europe. Maintenant, bah écoute, si ça arrange tout le monde d'avoir le Big Five, tant mieux pour vous. Allez, je joue entre vous. Faites-vous plaisir.
Ouais, ça tuerait le football pour toi.
Oui.
Mais
ouais.
Non,
oui.
Regarde. Non, le coach.
Si.
Regarde. L'année dernière. Quand tu regardes les 16 qualifiés de la Ligue des Champions, il y avait 6 nations. Et effectivement, on rajoute le Portugal dedans. Alors, cette année, c'est les 5 grands championnats. À un moment donné, alors, je peux comprendre Florentino Pérez qui milite pour cette ligue qui soit un petit peu fermée avec les clubs phares de ces 5 grands championnats. Mais c'est compréhensible parce que finalement, ces clubs-là, c'est les clubs les plus riches. C'est les clubs qui, comme le disait parfaitement bien Anna, n'ont en réalité pas de problème pour effectuer des transferts, convaincre les joueurs. Partant de là, c'est une économie parallèle, c'est des clubs qui, dans la grande majorité de leurs championnats respectifs, engrangent une grosse enveloppe des droits télé. Il y a du marketing derrière,
c'est des machines en fait. Donc c'est pas surprenant que tu te retrouves lors sur les 16 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions, la deuxième phase de poule, tu retrouves les 5 grands championnats. La seule exception, ouais, ça reste quand même l'Atalanta Bergame. D'ailleurs, qu'on tient à féliciter
pour leur parcours,
parce que première Ligue des Champions qualifiée. Oui, non, mais ça. Et puis.
Mais d'autre manière,
détriment du Milan AC.
Bien sûr. De toute manière, depuis l'arrêt Bosman, tu te retrouves avec ces grandes nations qui ont pris le dessus. Je dis encore pour moi que ça tue le football. On en reparlera plus tard, mais là où tu te réjouis d'avoir 450 classicos par an, c'est, moi je trouve ça génial et très bien pour tout le monde, pour le spectacle, etc. Tu te retrouves à voir des, moi c'est mon point de vue, mais d'avoir des pays, des vrais pays de football qui l'ont été en Europe de l'Est par exemple, en Roumanie, en Yougoslavie ou dans d'autres régions du monde, avoir une pauvreté, avoir de la corruption, avoir tout ça. Et si ces gens-là dès 14 ans partent dans les grands clubs, allez-y, qu'ils partent. Mais je vous dis que ça, il y a un moment, ça posera un vrai problème.
Trop frileux.
C'est une vérité.
De près, c'est un gros dossier.
Moi, j'aimais bien quand t'avais. Des clubs russes, des clubs serbes, des clubs écossais où il était difficile d'aller gagner.
Avant l'arrêt Bosman, quoi.
Ça, c'était pas mal.
Ouais. Non. Ces clubs-là, ils existent toujours.
Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de moyens.
Ils sont par le Qatar.
Il n'y a plus de moyens.
Non, tu ne peux pas dire ça.
Il n'y a plus de moyens.
Merci, le coach Tolé et aussi Anna d'avoir était avec moi et de m'avoir accompagné aussi, sans oublier Achille. Un gros big up à Yanis, notre réalisateur. On se retrouve demain pour la dernière de Time Sport de la semaine, 19h-20h, et la suite des programmes avec toute l'équipe de Philippe.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.